réplique à la recherche d'une vie avec Grégoire Bouillet. La vie dont Grégoire Bouillet s'est mise en quête est celle de Marcel Pichon, une ancienne mannequin qui, à l'âge de 64 ans, s'est laissée mourir de faim entre le 23 septembre et le 16 novembre 1984. Près de 40 ans après cet événement qui avait brièvement ému la France, Grégoire Bouillet a voulu comprendre. Il a remonté le temps, fouillé les archives et, en travaillant d'arrache-pied, écrit un livre monstre, un livre hors norme, un livre captivant, haletant, passionnant, frustrant, exaspérant parfois. Le cœur ne cède pas. Nous allons parler de ce livre et je voudrais d'abord, Grégoire Bouillet, que vous nous expliquiez votre choix. Vous dites « Ce qu'on appelle la réalité est mon maître en littérature ». Mais pourquoi cette réalité précisément ? Pourquoi Marcel Pichon, Grégoire Bouillet.
Tous mes livres procèdent d'une espèce de nécessité. Il faut qu'il y ait quelque chose... Après, je regrette de ne pas l'avoir mis dans le livre, parce que j'ai découvert ça après l'avoir écrit, qu'il soit publié. C'est André Breton raconte que en 1924, au moment où on lit ça dans le Manifeste du Surréalisme, il raconte qu'un jour, qu'il est somnolent chez lui, il entend une phrase, il sait pas trop d'où elle vient, si elle est dans sa tête, si elle vient par la fenêtre, et cette phrase dit quelque chose, je vois un homme coupé en deux, enfin voilà. Il dit, cette phrase cogne à ma vitre. Et c'est à partir de là qu'il invente, qu'il théorise l'écriture automatique. Et moi, il faut qu'il y ait quelque chose qui cogne à ma vitre. Et tout le livre... Quand j'ai entendu ce fait divers-là, enfin, en fait, au départ, c'est une émission de radio que j'entends en 1985 qui revient sur ce fait divers-là.
C'est les nuits magnétiques d'Alain Weinstein.
Oui, c'est ça, et avec la voix d'Irène O'Malley-Adenko, notamment, qui pour moi est assez importante dans l'imaginaire vocal et dans les voix du rêve. Mais la chose qui était importante, c'était que il faut que quelque chose cogne à ma vitre, et là, entendant cette émission, ce que vous avez oublié de dire dans la présentation du livre, c'est qu'il y a le fait divers, donc cette femme qui s'est laissée mourir de faim, mais il y a surtout le fait qu'elle a écrit le journal de son agonie.
Ça, nous en parlons, Dieu sait.
Oui, mais et moi, c'est plutôt ça qui m'a plus qu'intrigué, enfin qui a cogné à ma vitre pour le coup. Et dans cette émission de France Culture, des extraits du journal étaient lus. Et notamment, je me souviens très bien qu'une phrase m'est restée en mémoire, qui est « La langue comme un escargot ». Et là, ça a ouvert, je sais pas, quelque chose en moi qui fait que je n'ai jamais oublié ce fait divers. Voilà. Et je n'ai jamais oublié cette phrase. Et c'est plutôt la phrase qui contenait le fait divers plutôt que le fait divers qui contenait la phrase. C'est ça.
Alors,
qui m'a...
En effet, dans votre livre, vous citez l'extrait de ce journal d'agonie que Marcel Pichon a tenu entre les mois de septembre et novembre 84. Alors, nous y reviendrons longuement, mais je voudrais en lire quelques passages. Mardi 24, 32 jours, crise de foie, bile, 40 kilos. Épouvantable, le cœur tient toujours. Que la malédiction soit sur ce monde pourri. Phrase que vous citez à de nombreuses reprises. Pour un bol de bouillon, une tranche de pastèque, un citron, on vendrait son âme. C'est épouvantable. L'eau n'est plus tolérable. La langue, c'est un escargot qui dégorge dans du sel. Le cœur ne cède pas. La lucidité est entière. La nuit, l'estomac se contracte. 35 jours sans manger. Je suis à bout de résistance. Le jeûne, c'est la mort la plus horrible qui soit. Et c'est vrai, on est vraiment là dans un mystère insondable. Vous parlez, Grégoire Bouillet, de la cruauté d'un calvaire insoutenable et solitaire. Pouvait-on décider de s'infliger froidement, résolument, un aussi long supplice ? Et en effet, on peut concevoir le suicide, c'est-à-dire on passe brutalement de vie à trépas, mais il y a en nous, c'est le conatus, une persévérance vitale qui fait que on ne comprend pas qu'on puisse se laisser mûrir de faim. Et quand on lit pour un bol de bouillon, une tranche de pastèque, un citron, on vendrait son âme. Mais pourquoi ne s'est-elle pas fait un bouillon? Elle en est là. Et ça, c'est tout au long du livre. J'ai pensé à ça. Je me dis, est-ce qu'on peut résoudre un mystère pareil?
En tout cas, on peut essayer, avec la quasi-certitude qu'on n'épuisera pas ce mystère. Voilà, ce ne sera pas possible. Mais il y a quand même... À la fin, j'arrive quand même à une explication qui vaut une hypothèse en tous les cas que je trouve assez bonne, et qui est un conflit de personnes, c'est-à-dire qu'il y a une volonté contre soi, et cette volonté, elle tombe pas du ciel chez Marcel Pichon. C'est-à-dire que mon enquête me conduit à découvrir que en fait il y avait sûrement deux Marcel Pichon, une Marcel Pichon qui s'appelait Marcel Pichon, qui vient d'une famille du Berry, et puis une Marcel Pichon qui s'appelait Florence, qui était son nom de mannequin. Et il y a un conflit entre les deux. Je pense que c'est Florence qui a tué Marcel Pichon. Mais bon, je ne veux pas trop dire la fin de la chose. D'emblée, j'ai éprouvé la violence de ce mystère qui est double pour moi. C'est-à-dire, qui se suicide en y mettant un temps fou? C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, généralement, les gens se tuent très rapidement. Ils se jettent par la fenêtre, sous le métro, ils se tirent une balle, enfin, peu importe, ils se pendent.
Ils prennent des somnifères.
Des somnifères, enfin voilà, donc c'est ou une mort douce, enfin plus ou moins douce, en tous les cas c'est une mort rapide. Donc qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'infliger, parce que ça va durer 45 jours, c'est-à-dire que c'est une agonie qui dure 45 jours. Donc qui, ça c'était le premier mystère, et le deuxième mystère c'est qui, se suicidant en y mettant un temps fou, le raconte par écrit.
Oui.
Et ça c'est, enfin voilà, il y avait un double vertige, et moi je prêtais... À ce journal d'agonie, une valeur littéraire. Je lui ai prêté d'emblée une valeur littéraire.
Ah, je trouve.
Qui est que je ne connais pas d'écrivain qui ait pu écrire à ce point face à la mort. Alors, et la question, c'est qui écrit? Est-ce que c'est la mort qui déjà écrit, voilà? Est-ce que c'est la vie qui s'écrit face à la mort? Qui écrit au moment où Marcel, agonisant, écrit son agonie? Ça, c'est... Voilà. Pour moi, le journal, c'est un absolu, c'est un bloc d'abîme total.
Un bloc d'abîme, voilà. Oui. Par hasard, dans les jours qui ont précédé cette émission, Grégoire Bouillet, je lisais un livre, enfin par hasard, vous citez Éluard, oui. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des rendez-vous. Donc, je lisais ce petit livre de Zvi Kolits, Yossel Rakover s'adresse à Dieu. Nous sommes dans les derniers jours du ghetto de Varsovie, et donc le narrateur dit ceci: les gens étaient prêts à mourir de n'importe quelle façon, sauf de faim. C'est probablement parce que, en ces temps où les persécutions systématiques ont peu à peu tué tous les besoins de l'esprit, manger est le dernier désir qui vous reste, même quand on n'a plus envie de vivre. On m'a raconté qu'un juif déjà à demi mort de faim a dit à un autre: ah, que j'aimerais mourir après avoir, une fois encore, fait un véritable repas comme un être humain. Voilà. Alors, j'ai renvoyé à ce livre et donc à ce mystère. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous vous élevez d'emblée contre une interprétation trop délibérément sociologique. Les sciences sociales et les discours militants transforment facilement les individus en échantillons. Et chez vous, Marcel Pichon reste un individu singulier avec sa part de mystère. Vous dites, ceux qui ne voient en elle qu'une victime dépossèdent Marcel Pichon de sa singularité. Il l'exproprie de sa propre mort comme si elle ne lui appartenait pas, mais devait servir au bien commun. Et vous dites, il ne faut pas en faire un emblème social, parce que ça a été un peu le cas. On a retrouvé son corps 10 mois après sa mort, donc elle était totalement abandonnée, et tout d'un coup, elle devenait un emblème social, notamment pour la presse, et vous avez cette phrase, c'est comme si le boulot de la presse, c'était toujours de mener des campagnes de presse. Et vous vous insurgez contre cette tentation, contre cette facilité, et vous rendez à Marcel Pichon avec toutes les hypothèses que vous formulez, son individualité, ce qu'elle a d'énigmatique et d'irréductible.
Absolument. En fait, c'était une surprise de découvrir que lorsque la presse a parlé de Marcel Pichon, ce qui choque les journalistes et c'est l'information qu'ils relaient, c'est le fait qu'on ait découvert son cadavre 10 mois plus tard. Donc pour eux, c'est un drame de l'indifférence dans nos sociétés contemporaines, etc. Ce qui, pour moi, n'est pas vraiment un scoop. Voilà. Mais ce qui était étonnant, moi, ça me dérangerait pas qu'un journal ait trouvé que si le fait divers méritait d'être porté à la connaissance du public, c'était parce que ça parlait de l'indifférence ou de la solitude. Bah, un journal ne s'intéresse au fait qu'une femme, ancienne mannequin, se soit laissée mourir de faim. Ça aurait pu être ça, l'angle. Ou ça aurait pu être, mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui écrit son agonie en même temps qu'elle meurt? Non. Et c'est cette unanimité-là de la presse qui transforme le fait humain en fait de société.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que le fait de société, très vite, exclut le fait humain. Et je pense que c'est un peu le travail de la littérature que de revenir au fait humain parce qu'il intègre le fait de société. C'est ça qui est intéressant, c'est que, évidemment, je regarde aussi la sociologie de Marcel Pichon, d'où elle vient, quelles étaient ses origines, où est-ce qu'elle a vécu, quel a été son parcours professionnel, comme on dirait aujourd'hui. Donc, le fait humain intègre tout ça, mais n'épuise pas. Voilà. Alors que le fait de société, très très vite, évacue le fait humain, et on va parler que de catégories, que d'échantillons, et on va en faire un problème, ou de société, ou politique, ou militant, etc. Et ça, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, c'est la mort de la littérature quand on verse là-dedans. C'est ce que fait le journalisme.
C'est vrai. La littérature résiste à cela. Alors, d'un autre côté, on apprend au cours du livre les conditions dans lesquelles son corps a été découvert, et c'est absolument terrible. Une voisine, elle habitait rue Championnet dans les dernières années de sa vie, elle avait toujours habité chez son père, elle était allée dans un studio minuscule rue Championnet, qui était déjà une réclusion. Et vous visitez ce studio et vous en dites des choses terribles. Mais alors, ce qu'on apprend, c'est une voisine, tout d'un coup, des asticots sont tombés de son plafond, plein d'asticots. Ils tombaient par grappes entières dans sa chambre. Ça grouillait énormément. Il y en avait tellement qu'ils avaient fini par percer le plafond. Et c'est pour ça, et pas du tout à cause de l'odeur, comme l'ont prétendu les journaux, que les pompiers sont intervenus. Donc on a quand même là encore quelque chose d'absolument terrifiant. Mais, justement, parmi les hypothèses, vous attardez très justement à son métier. Donc, elle a été mannequin dans les années 40-50, je crois, chez Jacques Fatt.
La presse dit qu'elle a été mannequin vedette chez Jacques Fatt dans les années 50. Et alors, moi, j'ai cherché, évidemment, ça m'intéressait beaucoup. Et quand je dis que j'ai cherché, j'ai vraiment cherché.
Ah ben oui.
Je n'ai fait que ça. Enfin,
voilà. Votre livre est à la fois l'enquête et le récit de cette enquête.
Absolument. En fait, c'est aussi un livre sur la littérature. C'est bien évidemment, enfin, il y a un sujet qui est, voilà, le Marcel Pichon, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment est-ce que cette femme a pu en arriver à cette extrémité-là. Mais il y a aussi, peut-être qu'il faut dire que le livre s'ouvre sur un interdit d'écrire. Qui est que pendant un an et demi, en fait, j'ai enquêté, donc les archives et tout ça, jusqu'à retrouver, puisque j'avais un objectif, c'était de retrouver le journal d'agonie, savoir ce qu'il était devenu, est-ce qu'il existait encore, est-ce que quelqu'un le possédait, ou est-ce qu'il avait été détruit, est-ce qu'il était perdu, etc. Bon. Et le seul moyen de le savoir, c'était de retrouver les enfants ou les petits-enfants de Marcel Pichon. Ce qui n'est pas simple de retrouver. On peut retrouver assez facilement les aïeux, les ancêtres, les arrière-arrière-grands-parents, puisque toutes les archives sont ouvertes, ce qui moi m'a fasciné. Hein. Enfin, vous rentrez dans les archives du Berry, puisque le berceau de la famille Pichon, c'est le Berry, et c'est incroyable. Vous avez accès à tout. Alors avec Internet, c'est absolument prodigieux, et c'est ouais, il y a quelque chose de miraculeux. Et j'ai beaucoup pensé à Alain Corbin. Enfin voilà, sur quand il reconstitue la vie rêvée de Louis-François Pinago. Enfin, il prend un individu au hasard, et il remonte toute sa généalogie, tout ce qu'il peut en dire. Mais pour retrouver les descendants, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, je finis par retrouver, et donc il y a le petit-fils qui lui me reçoit, et avec qui Il aura cette phrase qui est assez jolie, que je trouve très jolie. Il me dit, en fait, je pense que vous allez faire le travail que nous aurions dû faire. C'est-à-dire essayer de comprendre notre grand-mère, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi, etc. Mais on n'a pas pu le faire, peut-être parce que ce n'était pas possible, et pas à cause de la proximité. Et par contre, la petite fille que je vois, et avec qui ça se passe plutôt bien, enfin, voilà, on discute pendant 3 heures, et 3 jours plus tard, elle m'envoie un mail en me disant « je vous interdis de parler de ma grand-mère ». Et donc le livre s'ouvre sur ce mail, c'est interdit d'écrire, qui a finalement été une aubaine, parce qu'il a mis d'emblée le livre sur des rails qui n'étaient pas juste les rails du fait divers, qui étaient aussi les rails de qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire, comment écrire. Et là, moi, j'avais jamais fait ça, puisque j'ai dû inventer un dispositif fictionnel pour pouvoir parler de la réalité. Parce que pour revenir à votre question du début, moi, j'ai une passion pour la réalité. C'est-à-dire que si j'éprouve un vertige en permanence, c'est sur ce qui se passe.
Et oui, vous dites, c'est de la réalité que je suis amoureux, c'est elle le grand mystère.
Oui, c'est elle le grand mystère, absolument. Et je pense que c'est même le grand mystère pour tout le monde. La question, c'est qui est capable de supporter la réalité? Et je pense qu'on a tous des difficultés à supporter le tragique de l'existence, le tragique social de l'existence, mais aussi le tragique du fait que nous allons tous mourir, que l'amour est 9 fois sur 10 un échec, que, enfin, voilà. Donc, et ça, c'est moi, j'ai un respect infini pour les faits, pour la réalité et pour comment les êtres humains se débrouillent avec cette réalité, sachant que la réalité est en fait une fiction. 9 fois sur 10, c'est une fiction. Le capitalisme, par exemple, est une fiction. Ce qui est réel, en revanche, c'est la volonté d'imposer le capitalisme. Ça, c'est réel. Par contre, le capitalisme lui-même, c'est une fiction. Donc, la réalité est en fait une espèce de conglomérat de fictions qui se sont réalisées, qui s'incarnent, qui dirigent nos existences, dans lequel c'est le bain dans lequel on baigne. Et la littérature est quelque chose qui peut justement affronter cette fiction en tant que fiction. Et c'est ça que moi j'essaye de faire. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé sur des événements réels et j'ai jamais fait d'autofiction, par exemple. Il y a toujours eu un malentendu sur.
Vous n'avez jamais fait d'autofiction et ceci n'est pas du tout une autofiction. Nous reviendrons tout à l'heure sur le capitalisme comme fiction. Mais là, vous avez parlé du petit-fils, c'est-à-dire votre livre est une recherche éperdue. Est très difficile. Vous citez Génada, mais quand il enquête sur Pauline Dubuisson, c'est
oui,
ça son
oui,
nom.
Oui, c'est ça, la petite femelle.
Il a des biscuits.
Ah bah oui.
Et vous n'en avez pas. Oui. Vous en avez très peu. C'est très difficile. Vous êtes désespéré à certains moments du livre, et quand même, vous êtes mis sur la voie des petits enfants. Les 2 enfants de Marcel Pichon sont morts, et là. Vous êtes amené à sortir de ce que vous appelez votre biais de compassion, Grégoire Bouillet. Moi, j'ai pas perdu mon biais de compassion tout au long de la vie. Mais vous dites, finalement, cette personne avait peut-être quelque chose de terrible. Et ce qu'elle avait de terrible, notamment, c'est qu'elle a abandonné, elle a refusé de tout lien avec son premier fils, qui ne lui a jamais pardonné, et qui a, en quelque sorte, légué cette rancœur à ses enfants. Et donc, tout d'un coup, on arrive avec un portrait de Marcel Pichon comme d'une femme dure, une femme cruelle, cruella même. Mm-hmm. Et là, évidemment, ça change un peu la perception qu'on en a, et cela explique la solitude dans laquelle elle s'est trouvée. C'est une des raisons qui font que son cadavre n'a été découvert que 10 mois après sa mort, dans les conditions que j'ai dites. Et c'est pourquoi le petit-fils n'a pas fait l'enquête que vous avez vous-même menée. Donc, au bout du compte, finalement, cette personne à laquelle vous vous êtes attaché, eh bien, est-ce qu'on peut dire que vous ne l'aimez plus ?
Ah non. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Et je la sauve même à la fin. Enfin, cette histoire de biais de compassion, elle était vraiment très, très intéressante. C'est-à-dire que moi, je suis parti au départ avec une idée sincère, honnête, de savoir qui était cette femme. Et je vais découvrir que, en fait, elle n'était pas aussi estimable que j'aurais aimé qu'elle soit. Je crois que l'une des premières occurrences où ça arrive, c'est lorsque je découvre qu'il existe une Marcel Pichon qui a été persécutée par les nazis. C'est-à-dire que dans mes recherches, je tombe sur... comme elle est née en 1921, donc elle a 19 ans, elle se marie en 1940, c'est-à-dire 3 mois après que la France soit occupée par les Allemands, que Paris soit occupée par les Allemands. Et voilà, donc ça m'a amené à chercher aussi du côté de la collaboration ou du côté des victimes persécutées. Et dans les fichiers des archives Harolsen, je tombe sur une Marcel Pichon, née à Paris, mais en 1923. Et je me souviens très bien, au moment où je découvre son nom, donc dans les personnes persécutées par les nazis, j'ai une espèce de... Je ne sais pas comment dire ça, de satisfaction, de joie, de ah oui, mais oui, tout c'est clair, elle a été persécutée par les nazis, donc du coup je vais comprendre que pourquoi à la fin, enfin il y a un côté Primo Levi, enfin voilà, elle a été persécutée, et donc tout le mystère Marcel Pichon pouvait d'un seul coup infuser dans l'horreur nazie. Et ça, évidemment, ce n'est pas la bonne Marcel Pichon, ce n'est pas ma Marcel Pichon, si vous voulez. Et de me prendre en flagrant délit de compassion et de la tirer du côté des victimes, j'ai trouvé très important de raconter ça. C'est-à-dire que, évidemment, non, si je voulais être sincère, honnête, respecter la réalité qui était celle de Marcel Pichon, il était très important que je dise que, eh ben oui, je souffre aussi d'un biais de compassion, ce qui n'empêche que je vais quand même aller jusqu'au bout de cette femme et à la fin, dans l'explication que je donne de ce qui lui est arrivé et de pourquoi...
Elle s'est dédoublée.
Voilà.
Elle avait choisi le surnom de Florence,
quand elle était mannequin.
Et en fait, c'est un assassinat. C'est Florence qui tue Marcel.
Absolument.
Dans votre interprétation finale.
Oui, absolument. Donc, du coup, Marcel reste bien la victime que j'ai d'une certaine façon voulu qu'elle soit. Mais c'est très intéressant de se prendre à son propre jeu. C'est-à-dire que je pense que c'est pour ça aussi que le livre fait 900 pages. C'est que si on veut rentrer dans les détails même de ce que l'on écrit, il faut aussi le mettre dans le livre. C'est-à-dire que la façon que l'on a de se positionner doit exister à l'intérieur du livre parce que ça fait partie du récit. Ça fait partie de l'histoire.
Oui.
L'observateur modifie son objet.
Alors, pour ma part, je suis resté enfermé dans mon biais de compassion pour des raisons, d'ailleurs, qui sont présentes dans le livre. D'abord, vous dites qu'elle a participé, Marcel Pichon, à une émission de télévision que vous voyez. Et je trouve ce qu'elle dit est très simple et très émouvant. Le pire, c'est de ne pouvoir rentrer chez soi et ne pas s'entendre dire « bonjour chérie ». Ce qui serait bien, c'est d'avoir quelqu'un qui attend sur le quai et qui me demande « comment ça s'est passé ?». Donc c'est quand même aussi une tragédie de la solitude. Et puis surtout, vous vous attardez, à mon avis très justement, sur son métier de mannequin. Et vous rappelez que Capucine, qui a été mannequin puis actrice, s'est défenestrée. Et vous citez d'autres femmes actrices qui étaient quand même, comme ça, aliénées à leur apparence. Vous dites que Ava Gardner, refusant qu'on la voie, donnait de rares interviews à travers l'interphone de son appartement. Laura Antonelli termina recluse. Au cours des dernières décennies de sa vie, Eddie Lamar ne communiquait plus que par téléphone, même avec ses enfants. Vous parlez aussi d'une pièce qui a été écrite, incroyable, sur Marcel Pichon.
Une chanson aussi.
Béatrice Audry, vous avez dit Marcel. Et en exergue, cette pièce porte la phrase suivante de Colette. « Aucun autre métier féminin ne contient d'aussi puissants facteurs de déségrégation morale que celui de mannequin. » Donc là, on n'a peut-être pas une explication, on est peut-être sur la voie de quelque chose. Comment vieillir ? D'abord, quand on est seul, elle a été mariée 2 fois, 2 divorces douloureux. Son deuxième mari, vous l'apprenez en cours du livre, la battait. Et elle a eu aussi une liaison avec un monsieur Paul.
Oui.
Monsieur Paul, vous...
Le mystérieux monsieur
Paul.
L'homme à la Peugeot blanche.
Ce mystère, vous en venez à bout, à force de recherche, Grégoire Bouillet. Mais ce monsieur Paul a été son amant, vous croyez que c'était une aventure extra-conjugale, que c'était un adultère, mais il était célibataire, enfin il était divorcé dans la période où il l'a connue. Oui. Donc il aurait pu vivre avec elle, il a sans doute rompu, elle s'est retrouvée toute seule. Donc il y a quand même là une tragédie infinie, et peut-être n'a-t-on pas besoin de recourir à Florence pour expliquer le geste de Marcel, Grégoire Bouillet.
D'abord, moi je suis ravi que chacun puisse se faire son propre sentiment à propos de Marcel. C'est-à-dire que je suis ravi que vous éprouviez de la compassion jusqu'à la fin. Et voilà. Au final, j'ai quand même le sentiment que Marcel a fabriqué son malheur. Elle a été poussée à fabriquer son malheur. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire aussi qu'elle a été abandonnée par sa mère.
Oui, c'est très important, ça.
Qui est, pour moi, enfin, à l'âge de 8 ans, et sa mère, quand je dis que sa mère l'a abandonnée, c'est-à-dire que quand elle se marie, quand Marcel se marie en 1940, sur l'extrait sur l'acte de mariage, il est dit que, et son père, et elle, ignorent où se trouve la mère. C'est-à-dire qu'elle a complètement, elle est sortie de sa vie, pour aller vivre sa vie, d'ailleurs, de rive droite, avec un musicien. Je vais remonter la piste de Eugénie Landré, donc la mère de Marcel. Donc il y a ça. Alors tout ça est quand même... ce sont des éléments biographiques, et j'ai bien conscience qu'on ne se résume pas à qui était notre père, notre mère, notre famille, d'où on vient, etc., et qu'il y a quelque chose qui appartient à l'individu. Mais quand même, dans les éléments biographiques, il y a ça. Il y a le fait que son père, je vais découvrir qu'il... Donc coiffeur de quartier dans le 15e arrondissement, rue de Javel, là où elle habitait, était avare. C'est-à-dire, il marquait au stylo-bi les parts de camembert pour qu'on n'en prenne pas plus que sa part. Et là, quand même, ça dessine un environnement entre une mère absente, avare en sentiments, d'affection, de tendresse, et un père avare avec les choses matérielles.
Mais quand même, malgré son avarice.
Peut-être, mais quand même, ça crée un environnement vraiment mortifère et compliqué. Voilà. Sur le mannequinat. Alors, j'ai beaucoup cherché, parce que je voulais retrouver au moins des photos de Marcel Pichon quand elle était mannequin, tout ça. Et en fait, je vais finir par découvrir qu'elle n'a pas été mannequin dans les années 50, comme la presse l'a prétendu. Plus probablement, elle a été mannequin pendant la guerre. Et à une époque où Jacques Fatt, qui est aujourd'hui bien oublié, mais peut-être pas des gens qui s'intéressent à la mode, mais en tous les cas qui a été le grand rival de Dior après-guerre, enfin voilà, qui était l'histrion de la mode, etc. En fait, a construit toute sa carrière entre 1940 et 1945 en collaborant avec les nazis, avec l'occupant. Et sa femme, puisque j'ai retrouvé une note de la CIA, sa femme Geneviève Fatt, se vantait d'être la maîtresse d'Otto Abetz. Donc c'est dire à quel point... Donc si Marcel a été mannequin plus tôt, dans les années 44, 43, 44, 45, c'est dans un moment très particulier de la mode où, après j'ai retrouvé, enfin j'ai découvert dans un livre de Dominique Manotti, l'auteur de Polar, qui parle de Geneviève Fatt et des soirées... plus que galante, qui se donnait avec l'occupant, et voilà. Et après la guerre, je pense que Marcel n'est pas du tout mannequin. Donc elle a été mannequin pendant très peu de temps. Donc alors peut-être qu'elle a continué à construire sa vie sur sa beauté, il paraît qu'elle était très spectaculaire.
Il y a une photo d'elle. Une photo d'elle à la fin du livre. Elle est vraiment éblouissante.
Hein. Oui, c'est un type de beauté. Après la photo magnifique, mais il y a quelque chose, il y a une beauté, et puis il y a un voile de tristesse aussi dans son regard qu'on perçoit assez nettement. Vous parliez de Monsieur Paul, donc dans Paris Match, a volé des photos, quand la police a découvert le cadavre de Marcel Pichon rue Championnet, des journalistes, ils ont prévenu leurs copains de journalistes de François et de Paris Match, et les types sont venus, ils ont arraché une page du journal de Marcel, c'est pour ça qu'on connaît des extraits du journal de Marcel, et ils ont volé des photos, et notamment une où on la voit avec Monsieur Paul sur un front de mer, et elle est aussi, il y a quelque chose d'assez spectaculaire, c'est une jolie femme, enfin il n'y a aucun doute, c'est une très jolie femme.
Mais cette femme, donc, elle a été mannequin très peu de temps dans sa vie, elle a très peu travaillé. Et alors, justement, sur son père, vous dites qu'il était avare. mais vous dites aussi qu'elle a fait inscrire sur son tombeau une phrase que vous reproduisez. Tu me conduis sans faiblesse à la vérité de toujours, dans l'offrande de mon amour, mon éternelle tristesse. C'est beau.
Ah, c'est très beau.
Il y a toujours...
Mais ça fait peur aussi.
Ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur. Mais vous dites qu'il y a une force dans son journal, mais cette femme, enfin, n'écrivait pas n'importe quoi, n'écrivait pas comme n'importe qui.
Absolument.
C'est ça, donc on se dit, mais c'est quoi, d'où ça lui vient, ce style, cette façon de dire les choses? Et c'est pour ça aussi que je lui reste attaché.
Oui, oui, je comprends. Oui, oui. Non, mais enfin, c'est bien évidemment une histoire de mots aussi, ce fait divers-là, enfin, qui n'est pas un fait divers, qui est pour moi un fait d'abord humain. Alors peut-être aussi que moi, par exemple, ça m'aurait vraiment intéressé. J'ai cherché dans toutes les écoles du 15e arrondissement la trace d'une élève Pichon Marcel. Parce que j'aurais adoré retrouver dans les registres des appréciations sur tel qu'il y en avait. Donc j'ai retrouvé des Pichons de Nice, mais pas de Marcel Pichon, parce que il est possible aussi que c'était lié à l'éducation de cette époque, c'est-à-dire que le langage. Je pense qu'elle a eu une éducation rigide, en fait.
Rigide, oui.
Pas de mère, un père, coiffeur, mais peut-être, et avare. Et moi, je pense qu'elle a été corsetée très très vite, très tôt. Mmh. Mais c'est vrai que le geste d'écrire, de laisser ça, pourquoi avoir écrit? Est-ce que c'était pour être lu? C'était pour laisser quelque chose? Est-ce que c'était pour faire honte à ceux qui liraient? C'est très très mystérieux. Mais c'est vrai que c'est d'abord une histoire d'écriture.
Alors, je voulais en parler un peu plus tard, mais j'en parle tout de suite. Après, je reviendrai sur le capitalisme et l'anticapitalisme, parce que vous avez une interprétation aussi, à un moment donné, du geste de Marcel Pichon. Mais venons-en au carnet. Donc, vous rencontrez, Grégoire Bouillet, le petit-fils. Mm-hmm. Et le lecteur est content, parce qu'il a 850 pages, il va avoir de la matière, ça, il est content. Le petit-fils, finalement, vous avoue qu'il a les carnets. Vous devez lui téléphoner. Mmh. Et puis d'un coup, vous dites, non, ce souvenir que j'avais de l'émission de radio où j'ai entendu justement les extraits du journal d'agonie, c'est un souvenir écran. Parce que moi, il m'est arrivé quelque chose de terrible. J'ai été quitté extrêmement brutalement. C'était déjà ce qu'on n'appelait pas encore le ghosting, par une femme à 26 ans, sans explication, etc. Je suis devenu fou. J'ai empilé des carnets pendant ma folie, et ils sont dans mon bureau, et c'est ces carnets qu'il a qui m'intéressent. Et donc, vous finissez le livre en photographiant vos carnets, en vous disant finalement, elle m'y a conduit, je vais peut-être les rouvrir. Mais votre lecteur est frustré. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que votre lecteur, lui, pas la magie de votre écriture, est amené à s'en foutre de vos carnets. Il veut les carnets de Marcel Pichon. Donc, je vous le demande, est-ce qu'il vous les a montrés? Et pourquoi ne les avez-vous pas publiés dans leur intégralité? Et ça se termine sur une frustration terrible. On vous en veut, on a envie de vous prendre au collet, mais Grégoire Bouillet, c'est ces carnets-là qu'on vous demande.
Eh bien, je ne vous le dirai pas, parce que j'ai donné ma parole. Ça je ne peux pas vous... J'ai donné ma parole que... Voilà. Mais au moins, les carnets existent et il s'agissait de les retrouver. Après, je comprends votre frustration qui n'a pas été totalement la mienne. Puisque justement, cette histoire de souvenir écran, bon, vous dévoilez la fin, mais c'est pas grave.
J'ai pas divulgaché le
non,
livre.
Non,
le livre, c'est une enquête.
Et combien donc... même
Non, j'ai pas divulgaché. Je rassure le lecteur potentiel.
Oui, oui.
Il y a beaucoup de choses à découvrir.
Oui, oui, et puis même, ça m'embête pas du tout. Moi, on peut me raconter la fin. Ça va pas me troubler. Mais, en fait, il y a l'histoire de Marcel Pichon et il y a l'histoire du livre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est autant le récit de l'enquête que l'enquête elle-même. Et en fait, c'est le livre qui se termine là-dessus. Tout le livre est traversé d'un questionnement sur les littératures. Par exemple, lorsque je découvre qu'un écrivain japonais a écrit un journal d'agonie. Fictif. Donc il invente un personnage qui se laisse mourir de faim et son livre va être les 66 jours qu'écrit, voilà. Et ça posait une vraie question. C'est-à-dire, quelle était la valeur d'une fiction? C'est-à-dire que je fais intervenir Marcel en disant, mais c'est absolument sordide d'imaginer quelqu'un mourant de faim. On ne peut pas imaginer ça. Et il écrit un livre, quand même, qui fait 66 pages, et qui est bien, enfin, en plus, qui est très, très intéressant. Donc, quelle était la valeur de l'imagination et quelle était la valeur de la réalité? Est-ce que quelqu'un qui vit, qui raconte ce qu'il vit, a plus d'intérêt que quelqu'un qui imagine ce qu'il n'a pas vécu? Et c'est là où le livre, dialectise un petit peu fiction, réalité, enfin voilà. Mmh. Et il est évident que le journal de Marcel Pichon possède quelque chose que le livre de l'écrivain ne possède pas. C'est-à-dire, il y a une vérité, etc. Mais le livre...
C'est la vérité, et c'est quand même la manière de le dire. Dieu sait qu'elle ne peut pas faire de littérature. Elle n'en est pas là. Mais cette manière de dire les choses, j'ai lu quelques extraits, est absolument fascinante.
Oui, oui.
Chez Marcel Pichon.
Alors, vous avez raison. Et en même temps, on a quand même le sentiment que ce cahier ne va exister que parce qu'on sait.
Oui.
Que la personne qui l'a écrit s'est réellement laissée mourir de faim et écrit ça tandis qu'elle est en train d'agoniser. Alors que le livre de l'écrivain japonais, Masahiko Shimada, tient debout tout seul. C'est-à-dire, on se fiche s'il a bien mangé et bien bu le matin au moment où il écrivait son texte. Et donc c'est là où il y a quelque chose, le rêve absolu, ce serait que quelqu'un puisse écrire. Je dis ça à un moment donné. Ce qu'il faudrait, c'est que Marcel ait écrit son agonie, et que Shimada ait vécu son agonie. Et de façon à ce qu'à un moment donné, les deux arrivent à fusionner. Mais ça, ce sera jamais possible, puisqu'il y en a un. Pour moi, le journal de Marcel Pichon appartient à quelque chose qui s'appelle l'art brut. C'est-à-dire des gens qui se moquent totalement de l'ordre socialisé, de l'art. Ils font pas ça pour être exposés ou pour être lus. Ils sont tout seuls et ils produisent des œuvres absolument incroyables, magnifiques, dont on ne sait pas trop quoi faire, puisque justement, elles ne s'inscrivent pas dans un ordre socialisé. Voilà, moi, en tant qu'écrivain, je fais partie de l'ordre socialisé. J'essaye d'ailleurs de contester cet ordre, de l'étendre avec des livres qui font 900 pages ou qui font 100 pages, enfin, voilà, de sortir des formats, de faire bouger les lignes, les conventions, enfin, voilà. Mais je suis du côté de l'écrivain. Je ne suis pas du côté du fou. Mais en même temps, parce que j'ai eu des crises de schizophrénie, et c'est pour ça que le livre se termine aussi là-dessus, c'est que tout ceci est lié en même temps. Et la folie et la raison, à un moment donné, peuvent se rencontrer.
Oui, alors vous combattez, même dans votre travail d'écrivain, les conventions, et c'est là que j'en reviens à la fiction du capitalisme.
Voilà.
C'est-à-dire, non, c'est pas grave, rassurez-vous, c'est pas grave. Mais vous parlez à un moment donné du néolibéralisme qui s'est installé dans les années 80 avec l'abandon du socialisme, le tournant de la rigueur. Vous dites aussi, alors vous parlez de l'émission d'Yves Montand, Vive la crise. Vous dites que l'égalité, question égalité de l'humanité n'a pas avancé d'un pouce depuis le néolithique. Et vous rappelez la phrase de Marcel Pichon, malédiction sur ce monde pourri. 7 mois après l'émission de Montand, elle disait adieu à tout ce joli monde. Marcel, là on se dit, c'est-à-dire, alors peut-être il faudrait interpréter le geste terrible de Marcel Pichon comme une protestation contre le tournant de la rigueur. Non, et vous...
Je fais très très attention à ne pas dire ça. Je ne dis pas que c'est lié, je dis que tel était le contexte.
Oui, tel était le contexte. Mais alors justement, revenons-en à ce contexte. Parce qu'il y a aussi une fiction, ça va vous énerver, mais c'est pas grave, une fiction de l'anticapitalisme. Nous vivons à l'ère de la sécurité sociale, à l'ère du RSA, à l'ère du quoi qu'il en coûte, du chômage partiel, de l'aide médicale d'État, des dépenses sociales et des dépenses publiques extrêmement fortes en France, le plus haut niveau d'Europe avec le Danemark, je crois. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoires, si vous voulez. Mais on a aussi peut-être tendance à se raconter des histoires parce qu'elles sont excitantes, consolantes, captivantes, qu'elles nous plongent dans l'épopée, elles nous font échapper à une prose quotidienne qui peut être un peu ennuyeuse. Alors vous dites non, faites attention à ne pas envisager ça comme une protestation, mais il n'empêche, vous parlez, et d'ailleurs c'est très intéressant, de Bobby Sands. Mm-hmm. Bobby Sands qui fait une grève de la faim, et Margaret Thatcher qui refuse de céder. C'est un terroriste, dit-elle, elle ne sort pas de cette théologie, et cela va jusqu'à la mort de Bobby Sands et d'un certain nombre d'autres membres de l'IRA qui sont en prison comme lui. Donc, c'est une protestation, mais c'est comme si également le suicide de Marcel Pichon avait quelque chose, une protestation. Donc, vous retrouvez ce que vous avez évacué au début du livre, quelque chose comme une cause sociale ou une cause politique. Grégoire.
Enfin, je regrette si on le prend comme une cause, parce que vraiment, je prends soin de dire que c'est le contexte. Maintenant, comme je cherchais le journal de Marcel Pichon, j'ai retrouvé aussi bien le journal d'agonie fictif de cet écrivain japonais, mais aussi un vrai journal d'agonie,
oui,
qui date du milieu du 19e siècle, 1850, d'un négociant allemand qui se laisse mourir de faim et qui écrit. Donc il y a d'autres cas. Et il y avait aussi le journal de Bobby Sands. À un moment donné, j'ai juste regardé, mais à quel moment elle s'est laissée mourir de faim. Mais je fais la même chose pour sa naissance. C'est-à-dire, elle est née en même temps que la vache qui rit et que le numéro 5 de Chanel. Donc, tout ça, c'était le contexte. Et ça procédait aussi d'abord, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de dire aussi. Hein, enfin, voilà. Moi, je pense que si je vois une dégradation des relations humaines, pour moi, je l'impute, enfin, s'il y a un ennemi, celui que moi, auquel j'ai été confronté depuis que je suis né, c'est la marchandisation du monde. Donc, c'est le système capitaliste. C'est ça qui m'offusque profondément, définitivement. Vous pouvez me dire, mais attendez, OK, il y a la sécurité sociale,
etc. Ah oui, parce que nous vivons dans des social-démocraties.
Je suis bien d'accord. Mais tout ceci, il y a un grand ensemble qui permet ça, et d'ailleurs sur lequel on est en train de revenir. Hein. Enfin, je trouve que la loi des retraites, quand même... Non, mais bon, on ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave. Enfin,
j'ai pas de position tranchée sur la question des retraites. Je sais que Danemark, pays social-démocrate, la retraite a été fixée à 67 ans, c'est tout.
Ouais,
je ne dis pas que je suis favorable à 67 ans pour la France.
D'accord, non, mais j'entends bien.
C'est pas notre sujet.
Non, c'est pas notre sujet. Mais j'entends bien. Enfin, c'est toujours compliqué, cette histoire de comparaison, parce que par exemple, la France. C'est toujours un argument de dire, bon, au Danemark, en Suède ou ailleurs, etc. Et puis, d'un autre côté, bah ouais, mais en France, on est les seuls, la police est les seuls à utiliser les LGBT, par exemple. Et alors là, plus personne compare avec le fait que dans les autres pays, bah non, c'est interdit. Donc, voilà, je me méfie beaucoup des comparaisons. Moi, j'ai juste une sensibilité. Voilà, c'est une sensibilité qui est vraiment anticapitaliste, on va dire ça comme ça.
Très bien. Mais vous citez Yves Montand. C'est pas mon idole. Simplement, Yves Montand, c'est très intéressant, sa trajectoire. Ça a été, avec Simone Signoret, un compagnon de route flamboyant du communisme. Mmh. Et après, il a tourné dans ce film L'aveu, un film terrible, sur le communisme. Et là, avant d'en venir à ma dernière question très importante, je voudrais vous citer un philosophe polonais qui a été lui-même communiste, révisionniste à une certaine époque, jusqu'à rompre avec le communisme. Il a quitté la Pologne en 1968, répression terrible du mouvement étudiant et pogrom à sec, car c'était un mouvement antisémite organisé par le pouvoir, l'échec Kolakowski. Et ça, c'est très important, parce que ça peut former d'autres sensibilités que la vôtre. Et il a un texte admirable que j'ai déjà cité ici, « Comment être conservateur, libéral, socialiste ?» Le conservateur vit sous le regard des morts, il plaide pour la fidélité, il sait qu'il n'y a jamais et il n'y aura jamais dans la vie des hommes d'amélioration qui ne soit payée de détérioration et de maux. Pour le libéral, dans les communautés humaines où l'initiative individuelle est bridée et la concurrence anéantie au nom de l'égalité, la stagnation s'installe et le ressentiment sévit. Et le socialiste, lui, sait que une communauté où le marché régnerait en maître sur tous les secteurs de la vie ne serait pas plus vivable au bout du compte que les sociétés où le stimulant du profit a été entièrement rayé. Donc, allez. Et il dit, voilà. Donc, c'est la leçon qu'il tire, lui, d'une histoire qui est à la fois celle du communisme et du capitalisme. Bon, voilà. Mais c'est peu importe. C'était
moi,
une petite.
Juste pour dire, on va pas avoir le temps d'en parler, mais moi, le véritable héros de mon livre, c'est ce que j'appelle l'oiseau bleu.
Oui.
Voilà. Et qui est une espèce de joie vivante, de vitalité, d'allégresse, qui ne méconnaît pas le tragique de l'existence, qui ne méconnaît pas le tragique social, et qui pourtant perdure. Voilà. Et moi, c'est voilà. Si je sais pas si je suis anti machin truc. En tout cas, je suis pour l'oiseau bleu.
Vous êtes pour l'oiseau bleu, ben c'est une très belle définition. Alors, j'en voudrais maintenant en venir à vos deux personnages. Vous avez créé deux personnages. C'est-à-dire ce livre n'est pas un roman, mais c'est un roman quand même. Mm-hmm. Il y a Pimor, il y a une firme, je sais pas, une entreprise.
Une agence de détective.
Une agence de détective. Ouais. Bimor et Penny, son associé. Et leurs dialogues sont absolument délicieux. Penny, je sais pas, vous avez trouvé ça, parle d'elle à la troisième personne. Mais pas de façon prétentieuse, parce qu'elle dit celle-ci. Elle est tellement délicieuse que je voudrais que vous me la présentiez. En tout bien, tout honneur. Hein, je le dis tout de suite. Parce que franchement, non, nous vivons dans une époque compliquée. Mais vraiment, c'est une idée merveilleuse, votre livre. Bimor et Penny. Comment ça vous est venu?
Eh ben, en fait, ça a été une, d'abord, c'est toujours mystérieux de savoir comment les choses nous viennent. Mais en tous les cas, il y avait une, dès le départ, comme je l'ai raconté, j'avais une impossibilité de décrire la vérité, puisque la petite fille de Marcel Pichon me l'interdisait, et que, vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, les services juridiques sont extrêmement pointilleux sur tout ce qui se publie. Et donc, il fallait que je trouve un dispositif littéraire pour quand même pouvoir parler de la vérité. Et c'est ça qui m'a vraiment passionné, au-delà de... On va revenir sur Bimor et Penny, mais c'était, pour une fois... C'est-à-dire, il y a un conflit entre vérité et fiction. Il y a quand même plein de gens qui disent ouais, la vérité, on s'en fiche parce que primauté à l'imagination, à la liberté de l'auteur, etc. Moi, je fais partie des gens pour qui la vérité compte. Et peut-être que la vérité, on peut pas l'atteindre, mais on peut dire que la vérité n'existe pas seulement quand on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché. Absolument. Là, peut-être qu'à la fin, vous pouvez dire, en fait, on l'a pas trouvé. C'est pas quelque chose qu'on peut poser comme un postulat de départ. Parce que sinon, c'est l'impunité au mensonge, tout de suite. Enfin, voilà, l'impunité du mensonge. Donc, et là, c'était très rigolo parce que j'ai inventé un dispositif fictionnel avec cette agence de détective, la Bimor et Investigation, avec un détective en chef qui s'appelle Bimor et son assistante, son associé, Penny.
Et eux. Elle est craquante, cette Penny, elle est craquante.
Et eux, tout ce qu'ils. Eux sont complètement inventés. Mais tout ce qu'il trouve sur Marcel Pichon est vrai.
Oui.
Et c'était ça qui me permettait de pouvoir dire tout un tas de choses. Et puis, par ailleurs, j'avais un souci, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a très très peu de choses sur Marcel Pichon. Elle a une mort spectaculaire, mais c'est une anonyme au sens de Pierre Michon. C'est une vie minuscule.
Une vie minuscule, oui.
C'est une vie minuscule. Et donc, on n'avait rien. Et hormis peut-être ce que les encyclopédistes appelaient la raison, enfin on a la raison, la mémoire et l'imagination, et c'est ça qui construit de la connaissance en dehors de Dieu, justement. Ça m'a beaucoup intéressé, cette définition du savoir. Et donc Bimor, c'est un vieux mâle dans mon genre, hein, enfin blanc, hétéro, voilà. Et puis Penny, Penny, c'est moi aussi.
Penny, c'est.
C'est moi aussi.
C'est vous aussi.
Je vais vous décevoir.
Ah oui, je suis affreusement déçu. Alors là, vous me fichez un coup. Ah non.
Mais bien évidemment, elle n'existe pas. Et elle existe partout. Enfin, j'ai emprunté. Mais de
et le celle-ci, ça vous est venu comment?
Je le raconte. En fait, c'est un souvenir de lorsque je lisais des bandes dessinées quand j'étais gamin. Et il y avait un personnage qui s'appelait Mantis dans les super-héros de Strange et Marvel. Et elle s'exprimait comme ça. Et au départ, c'était un enjeu littéraire. C'est-à-dire que si elle ne pouvait pas dire « je », il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas dire « je ». Si Bimor dit « je », si vous faites des dialogues, c'est « je ». En fait... Et donc, ça s'est imposé immédiatement pour que, justement... Et vous savez que c'est très... C'est un exercice littéraire de construire des phrases en disant celle-ci plutôt que je. Enfin, c'est comme si vous repreniez le début de La Recherche du Temps Perdu et que vous changez le temps. Vous faites des phrases complètement différentes, vous changez la tonalité. Donc ça, c'est un exercice littéraire tout à fait passionnant.
Et exercice littéraire, je dois dire, très réussi, Grégoire Bouillet. Alors, je terminerai par une citation de votre livre que je trouve très belle. On a l'âme d'une midinette où on n'a pas d'âme du tout. Voilà. Donc, comme j'ai l'âme d'une midinette, j'ai lu passionnément ce livre, Grégoire Bouillet, Le cœur ne cède pas, publié sous le nom de roman, aux éditions Flammarion. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Christophe Papon. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre Le métier de professeur. Mes invités seront Mara Goyet et Patrice Jean. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.